ce qu'elles font, et de façon très surprenante. D'abord, ça va être une forme qui se joue dans l'entracte. Quand vous allez à un concert de jazz, pendant l'entracte, certains des musiciens commencent à faire du skiffle. Et puis après, tout d'un coup, ça va exploser. Ça va exploser, ça va devenir hyper populaire très très rapidement. Alors c'est quoi le skiffle? Il y a une version américaine qui avait déjà disparu dans les années 50. Et c'est-à-dire faire de la musique avec des instruments faits maison. Dans le sud des États-Unis, c'était une tradition. Ça avait déjà disparu. Le skiffle, même s'il a pris le nom du courant américain, en fait, c'est pas la même chose. C'est du English skiffle. C'est un des ancêtres directs du rock and roll. Et c'est Lonnie Donegan qui est nommé père du skiffle, celui qui est le plus connu. Et je vais vous jouer un peu, je vais vous mettre un petit peu et puis je vais vous expliquer en quoi consiste le skiffle et pourquoi, surtout, pourquoi ça a marché. Alors, la ressemblance au rock and roll est assez évident, mais c'est avant le rock and roll. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial? Bon, tout d'abord, les instruments, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais la basse, c'est fabriqué avec... La basse qu'il joue, c'est un balai avec une ficelle. Dang, 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 dang. Et en dessous, une caisse en bois, mais à la maison, hein, comme pour transporter les paquets de thé. Alors, c'est fabriqué maison, ça coûte rien. C'est une boîte en bois, et puis une balai et une ficelle. C'est ça ce qu'il jouait là, la big bass. Le tambour, c'est un fût de pétrole, quelque chose dans le genre. Aussi, ils utilisent le peigne, pas là, mais ils utilisent le peigne avec le papier. Et la planche à laver, on va avoir un autre exemple, une planche à laver avec une pièce. Le seul instrument qui coûte un peu d'argent, c'est la guitare. Alors, c'est guitare plus instrument fait maison. Pourquoi c'est important? Parce que n'importe qui peut le faire chez eux. Rappelez-vous que la musique populaire jusqu'à là, c'est le big band. C'est 12 instruments, un salon de danse pour le jouer. Et alors, il faut de l'argent, ou il faut un sponsor, ou quelque chose. Le skiffle, c'est pour la toute première fois, et ça va être répété après avec... le rock and roll, le punk, jusqu'au rap, et même un peu le techno, que comment on commence, on passe ses vacances d'été plusieurs heures par jour dans le garage à répéter. Et il y a un nombre de petits groupes de skiffle locales phénoménal. Un nombre, c'est la première dans les temps de l'après-guerre, c'est le premier réseau. Comment dire, de base, c'est vraiment une explosion populaire dans le sens de en plusieurs milliers de groupes skiffle en Angleterre, dont la plupart vont faire trois concerts et disparaître. Et c'est une des forces, je crois que c'est une des forces de la musique populaire britannique, c'est que ça reste une activité de masse. Et c'est vrai que, je ne sais pas, je n'ai pas demandé à mes neveux si c'est encore le cas, mais pour les gens de mon âge, si vous en... demander à des Anglais, des hommes anglais de mon âge, s'ils ont fait partie d'un groupe quand ils étaient petits, quand ils étaient jeunes, ils font, évidemment, c'est Bien sûr, ça dure 3 mois, ou ça dure 2 mois, ou ça dure très, très peu. Mais c'est une activité de masse. Donc, contrairement au Big Band, où il fallait beaucoup d'argent, les instruments sont fabriqués à la maison. Et donc, l'idéologie, c'est vous, les gens, vous pouvez faire de la musique chez vous et ça vaut quelque chose. Donc, c'est une idée démocratique. C'est la toute première fois. Dans l'espace de 3 mois, il y a des milliers de groupes de skiffle. Et dans les groupes de skiffle, on trouve, parmi des dizaines de milliers de personnes oubliées, John Lennon, Mick Jagger, Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin. Mick Jagger, donc justement, il faisait partie du Barber Skiffle Band. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Ce qui est nouveau, c'est l'idéologie do it yourself, faites-le vous-même. Les instruments faits maison, l'idée que tout le monde peut le faire, qui est le contraire même du Big Band comme idée. Par contre, les chansons ne sont pas forcément très nouveaux ou différents. En général, ce sont des chansons folk américaines qui sont chantées. Donc le thème est américain, mais la forme est complètement anglais. Même le fait que le thème soit américain, c'est important parce que dans les années 50, l'Amérique, c'est tout ce qui est moderne. C'est tout ce qui est moderne. C'est merveilleux d'écouter des choses américaines. Les soldats américains tellement sexy qui étaient venus à la fin de la guerre et tout ça. Je voulais dire quelque chose sur la chanson qu'on vient d'entendre qui était d'un skiffle group, ce n'est pas de Lolly Donegan, parce que le texte est merveilleux. Le texte, c'est « Maman a interdit qu'on joue du skiffle ici. Mais cela nous est égal, ce qu'a interdit notre maman, on va continuer à jouer du skiffle. » Et puis le deuxième strophe, c'est « Maman a interdit de jouer du bass ici. » Et bon, etc. Alors, si le côté révolte de jeunesse est affiché et déclaré, et il va y avoir d'autres cas, je vais vous montrer d'autres cas, mais c'est ça, c'est on veut faire ceci parce que c'est la musique qui n'est pas comme celui de nos parents. Et d'ailleurs, très souvent, la première qualité d'une musique populaire, c'est qu'il faut que ça soit différent que celui des parents, que celle des parents, de préférence différente de celle du grand frère ou de la grande sœur. Et la nouveauté est essentielle. On va écouter un petit peu Lolly Donegan, mais je vais le continuer, je vais le commencer au milieu, parce que c'est un peu long à démarrer ce truc. Ah. Ah, celui-là, il ne veut carrément pas jouer, d'accord, ok, on va mettre un autre.
Of the big Pacific Ocean, where the sun sinks in the west, in the big grand coulee country, in the land I love the best, in the misty crystal glitter of the wild and windward spray, man, I fought the pounding waters, and made a watery grave. Why, she tore their boats to splinters, but she gave men dreams to dream of the day the coulee dam would cross that wild and wasted stream. Now Uncle Sam took up the challenge in the year of 33 for the farmer and the factory and all of you and me. He said, roll along, Columbia.
One more.
Dorothy, she said, tomorrow I join this big man for money, but if you act right, then you can take me home tonight, wine and dine, and get back in time. On the last train to San Fernando, last train to San Fernando, and if you miss this one, you'll never get another one. It's the bitty bitty bum bum to San Fernando, bitty bitty bum bum to San Fernando.
Last train to San Fernando, c'est le dernier train pour San Fernando, hein? Mais en fait, il retrouve un peu une tradition du musical, parce qu'en fait, c'est un thème un petit peu osé, parce qu'en fait, le texte, c'est « J'ai rencontré telle ou telle fille hier soir, elle m'a dit « Demain, je vais me marier, mais si vous jouez bien vos cartes ce soir, vous avez des chances, mais c'est le dernier train pour San Fernando. Bon. » voilà, ça c'est un peu le genre de choses qui marchent à l'époque. Les compagnies de disques sont très conservateurs. Au début, ils refusent d'enregistrer les skiffles, c'est pas sérieux, etc. Mais ça va exploser. Certains groupes vont jouer toutes les semaines au même endroit. C'est un peu nouveau comme idée. The Vipers, par exemple, ils ont tous les jeudis soirs ou les vendredis soirs, ils sont dans un bar à café à Londres. Donc c'est une époque particulière. Hein. Ce n'est pas un, c'est pas le Zénith. Hein. C'est le bar à café. Donc c'est une ambiance où il n'y a pas d'alcool déjà. Hein. C'est intéressant. C'est comme ça qu'ils vont, réussir à vendre des disques. Au niveau commercial, c'est un peu le chaos parce qu'il n'y a pas de loi sur les chansons. Alors, notamment, une fois, Lonnie Donegan, il passe à la télé. La télé, à l'époque, c'est en direct. Il passe à la télé avec son chanson Cumberland Gap. Et deux jours plus tard, un autre groupe sort le disque parce que lui, il n'avait pas encore enregistré. Un autre groupe sort le disque, vend 100 000 exemplaires. Et alors, bon, voilà, il n'y a pas encore la structure juridique pour accompagner ce genre de choses. Ça devient, pour les gens qui aiment le skiffle, ça devient, ça revêt une importance qu'on voit encore aujourd'hui. Les gens qui prennent le punk ou le rap au sérieux, il faut faire attention quand on leur parle, parce que si on dit que tel ou tel, il est nul, il ne trouve pas, ils le prennent très à cœur, quoi. C'est très émotionnel. Et c'est la même situation ici, parce que Lonnie Donegan, il a vu des fans, beaucoup de fans, et qui trouvaient que le skiffle, c'était moderne, c'était américain, les thèmes au moins, et alors ça montrait à quel point ils étaient nouveaux et sophistiqués. Et puis Lonnie Donegan, il commence à changer un peu d'idée, il chante des chansons un peu de music hall, et ses fans sont très choqués. Hein? Alors ça, c'est aussi, ça fait partie de la musique populaire depuis 50 ans. Les débats entre fans sur si le chanteur aurait dû ou n'aurait pas dû faire le dernier changement dans son style. Alors ici, c'est une version de Lonnie Donegan. C'est une chanson un peu genre musical. Ça s'appelle « Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight ?» C'est votre chewing gum, votre gomme à mâcher, est-ce que ça perd sa saveur si vous le laissez coller à la barre du lit toute la nuit. Voilà, donc on voit qu'on retrouve le musical dans le sens qu'on ne parle pas d'amour, on parle vraiment de ces petites chansons un peu rigolotes pour se faire plaisir. Vous entendez le clic, 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 c'est quoi comme instrument? C'est deux cuillères. C'est deux cuillères. Yeah? Okay, that's very important that you do it yourself. The question is peculiar, I give a lot of hope. If only I could know. The answer to my question is it yes or is it no? Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight? If your mother says don't chew it, do you swallow it in spite? Can you catch it on your tonsils when you heave it left and right? Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight? It comes a blushing bride, the groom is by her side. Up to the altar, it's as steady as she brought her, while the groom has got the ring, and it's such a pretty thing. But as he slips it on, the pick of the choir begins to sing. Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight? If your mother said don't chew it, do you swallow it in spite? Can you catch it on your tonsils? Can you hear it left and right? Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight? On voit un début de la valeur énergie. C'est-à-dire que pour beaucoup de courants de la musique populaire depuis 40 ans, il faut de l'énergie, sinon c'est moins bon. Pas pour tous, hein, le folk ne revendique pas l'énergie, et il y a certains chanteurs qu'on connaît quand même, où le but c'est pas l'énergie, mais quand même beaucoup, c'est, il faut que ça soit rapide, énergique, etc. Et là, on a un début de cela. Je vais, donc ça c'est avant le rock'n'roll. Alors le rock'n'roll, ça arrive en Angleterre en 55, hein. On va en parler dans un instant. Mais avant ça, je veux vous donner un ou deux exemples des autres choses qui marchaient à l'époque qui étaient anglais. Parce que bien sûr, Frank Sinatra, ça marche à fond. Hein. Mais il y a aussi des anglais, des crooners anglais. Et celui-ci, c'est Guy Mitchell qui a vendu des millions. Guy Mitchell. Et celui-ci, c'est « She wears red feathers and a hula hula skirt ». Elle porte des plumes rouges et une jupe à la hula hula, une jupe hawaïenne, on va dire. On va en parler, je vais vous parler un peu des paroles après. She wears red feathers and a hula hula skirt. She wears red feathers and a hula hula skirt. She lives on just cokie nuts and fish fur on the sea. Hair, a gleam in her eyes, and love in her heart for me. I worked in a London bank, respectable position. From 9 to 3 they serve you tea, but prune your disposition. Each night at music hall, travelogues I'd see, and once a pearl of a native girl kept smiling right at me. She wears red feathers and a hooly hooly skirt. She wears red feathers and a hooly hooly skirt. She lives on just cokie nuts and fish fur on the sea. A rose in her hair, a gleam in her eyes, and love in her heart for me. Alors, on retrouve un petit peu une tradition musicale dans le sens que c'est une histoire. Il y a un début, un milieu et une fin. Ce qui, pour plus tard dans le siècle, ça va être plus rare. Ça va être plus... Souvent, aujourd'hui, on écrit des chansons pour transmettre une ambiance plutôt que raconter une histoire. Bon, ça s'est passé, et puis le lendemain matin, ça s'est passé. On fait peu ça aujourd'hui avec des chansons. Et donc, ça, c'est traditionnel là-dedans. L'histoire est un petit peu au deuxième degré. C'est un employé de banque qui il y a une Hawaïenne qui tombe amoureuse de lui et il part aux îles avec elle, d'accord. Aujourd'hui, ce serait assez difficile de vendre une chanson comme cela parce qu'aujourd'hui, on comprend que c'est quand même fondamentalement de type raciste, quoi. C'est-à-dire que là, la fille, elle vit de poisson cru et de... Elle mange seulement des noix de coco et du poisson cru directement de la mer. C'est une image des filles des îles qu'aujourd'hui, on comprend que c'est quand même raciste. C'est pas le racisme méchant des fascistes, mais c'est une image complètement bizarre des gens qui viennent d'ailleurs, quoi. L'exotisme de l'époque. Ça a vendu 1 million, hein. Ça va donner 1 million, hein, ça, c'est un grand, c'est Guy Mitchell. Et là, encore un, c'est Frankie Lane. Je crois que j'ai un Frankie Lane, j'espère, parce que j'ai une petite histoire sur le Frankie Lane. Parce que ma mère, quand elle avait 18 ans, elle était travaillée comme dactylo, et elle est allée voir un concert de Frankie Lane, mais elle dit qu'elle n'a rien entendu à cause de toutes les jeunes filles qui hurlaient. Et alors ma mère promet qu'elle n'a pas hurlé. Mais bon, vous pouvez la croire ou non. Hein. Est-ce que je vais le trouver déjà, celui-ci, Frankie Lane? C'est pas sûr. Hein. Eh bien, désolé, hein, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Dernière tentative. Voilà, non, je ne l'ai pas. Toute dernière qui est très très populaire à l'époque, même en France, hein, parce que ce n'est pas si facile de passer en France, mais Petula Clark, c'est une Anglaise qui a réussi à passer en France. En France, à l'époque, on avait tendance à traduire en français les chansons anglaises et les faire chanter par Richard Anthony.
Thank you.
au milieu. Le thème, c'est downtown, au centre-ville. Peut-être, je cite, peut-être vous connaissez des endroits qui ne ferment jamais. On en voit aujourd'hui, des endroits qui ne ferment jamais dans les grandes villes, c'est pas surprenant. À l'époque, en Angleterre, beaucoup plus difficile, donc c'est quand même un peu, on est jeune, on va au centre-ville, on va s'amuser. Et ça, c'est tout un thème qui est éternel dans la musique populaire, la chanson du samedi soir, que... Là où je vais, on danse mieux, on écoute la meilleure musique et on s'amuse mieux que là où vous allez. C'est le thème des chansons, de glorifier le samedi soir. Bien sûr, dans les années 50, il y a beaucoup de gens qui n'écoutent plus ça qu'autre chose, peut-être qu'autre chose, et aussi énormément la musique classique légère, des interprétations... de big band, de la musique classique, ça vend des millions, des millions. Mais va arriver le rock and roll là-dessus. Et je n'ai pas tous les éléments que je pense y avoir. Là. Non, je ne sais pas pourquoi. Ah. Voilà. C'est américain.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Wait, it's that right, so join me home. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two,
ça arrive en Angleterre en 55. C'est le rock and roll. C'est-à-dire que c'est une version de musique originaire dans les quartiers noirs et vendue dans un premier temps par les compagnies de disques, vendue pour les noirs, parce que c'est assez séparé le marché. Hein. Et c'est une version rendue acceptable. Alors, ils ont trouvé des blancs pour le jouer parce que ça n'est pas passé. Ça n'allait pas vendre des millions si c'est des noirs qui le jouaient aux États-Unis. Alors, c'est une version, voilà, un peu blanchie de la musique d'origine. Et ça va faire fureur. Ça va être notamment très, très populaire parmi les jeunes. C'est Bill Haley. Bill Haley and the Comets. Mais notez bien, première chose, Bill Haley n'est pas jeune quand il chante ça. Pas du tout. Il a les 40 ans bien passés. La première vague de rock and roll n'est pas chantée par des jeunes. La deuxième vague, ce serait chantée par des jeunes. L'idée qu'on peut être un rockstar très jeune, c'est une idée qui vient un peu plus tard. Regardons un petit peu le texte. nous allons danser du rock toute la nuit. Alors déjà, danser du rock, c'est aller plus rapidement, c'est une danse un peu plus osée, plus sensuelle, moins respectable que la valse et le foxtrot de nos parents. Hein? Je ne sais pas danser le foxtrot, je connais le nom, c'est tout. Vous pouvez demander à ma maman. Et alors, comme souvent la musique populaire, c'est un peu adressé aux parents. Alors, nous allons danser du rock toute la nuit. Le contenu fondamental, c'est nous refusons de nous coucher. C'est essentiellement ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous êtes des jeunes adultes, il faudrait que vous trouviez un bon métier maintenant. Hein? N'oubliez pas, vous devez respecter vos aînés. C'est quand même notre génération qui a gagné la guerre pour votre liberté. C'est cette ambiance, les années 50, hein? Moi, je connais des gens qui, en 10 ans de plus que moi, ils disaient « Ah oui, les oncles et à la télé, c'est toujours nos héros de guerre, il faut les respecter, être des gens qui méritent la société qu'ils ont sauvée pour nous. » Très, très lourd. Alors, le rock'n'roll, c'est exactement le message, la réponse. Mais non, on refuse votre société. C'est pas politique, hein, mais quelque part, si. Parce que c'est on refuse les mœurs que vous voulez nous imposer. Qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut danser toute la nuit. On veut notre musique à nous. Ça va devenir aussi, en partie, une revendication de libération sexuelle. Alors, le rock'n'roll était très décrié, hein? C'était très critiqué. Si vous avez vraiment autre chose à faire, il y a d'autres endroits où vous pouvez le faire aussi. Merci. Le rock'n'roll était très décrié, très critiqué dans tous les journaux. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde? The Times n'aimait pas ça. Mais surtout, il faut se rendre compte que tout le monde, y compris les gens qui aimaient bien le rock'n'roll, supposait que ça allait disparaître dans 2 ou 3 ans. Personne n'avait en tête que ça allait durer et que vous connaissez déjà cette chanson. Ça a duré aussi longtemps. C'est très surprenant comment ça a pu durer. L'année suivante, c'est Elvis Presley. Qui arrive, qui aussi, c'est pas mal un produit fabriqué par l'industrie du disque, mais qui savait sacrément bien chanter et communiquer cette ambiance. Le voici. On est encore sur les Américains. My hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think? Oh, when you have such luck, I'm in love. I'm all shook up. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love the best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano and it's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Mm-hmm. I'm all shook up. Je suis tout secoué par l'amour. Alors, même le thème, c'est très moderne. Là, c'est un homme qui dit « Quand je la vois, je tremble de peur ». Dans les années 40, les années 30, on ne disait pas ça, les hommes. Ah non, 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 non. Ah non, on n'en parlait pas. Et d'ailleurs, il y a une évolution qui continue jusqu'à aujourd'hui sur qu'est-ce qu'il est possible pour un homme de chanter dans une chanson d'amour. Tout récemment, je vous en ai peut-être déjà pas parlé, il y a 2 ans, il y a une chanson de The Streets, et c'est le narrateur, c'est un homme qui dit à son ami qui vient de perdre sa petite copine, ne pleure pas. Alors, même aujourd'hui, c'est assez rare, ce genre de choses, c'est très moderne, tout ça. Mais, donc, le thème est un petit peu osé, et bien sûr, la danse de Elvis Presley sur scène, c'était très choquant pour les médias, le mouvement des cuisses et tout ça, c'était des hanches et des cuisses et tout ça, et tout le reste. Ça faisait beaucoup de dénonciations, ça provoquait beaucoup de dénonciations. Et alors, il y avait, par la suite, il y avait les Anglais pour poursuivre. Hein. C'est-à-dire que notamment Cliff Richard et Tommy Steele, c'était les Anglais qui voulait être un peu le Elvis Presley ou autre de l'Angleterre. Relativement, bon, ils ont vendu des millions de disques, mais bon, ils n'avaient pas, ils n'avaient pas tout à fait la même chose. Parfois, c'était des chansons très simples comme celui-ci. Nous partons en vacances d'été.
On a summer holiday, no more worries for me or you, for a week or two. Congratulations and celebrations. Well, I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations.
Peut-être un peu plus antiseptique que la version américaine. On va passer aux années 60, les années 60, qui sont très longues, parce que maintenant, en fait, ça commence à changer très rapidement. C'est-à-dire que le skiffle, c'est 53-54, puis le rock'n'roll, 55-56. Tous les deux ans, ça va vraiment transformer quelque part. Et ça va être le cas pendant assez longtemps. Alors, c'est quoi les années 60? Eh bien, la guerre froide. C'est solidifié comme la course aux armements où les États-Unis et la Russie, mais aussi l'Angleterre et la France, ressentent le besoin d'avoir assez d'armes nucléaires pour détruire l'autre pays 17 fois. J'ai jamais trop vu l'intérêt. Moi, en général, je détruis quelqu'un 3-4 fois et je suis content. Mais bon, c'est comme ça. Aux États-Unis, bien sûr, la lutte pour les droits civiques des Noirs. En Irlande, les débuts de la lutte pour les droits civiques des catholiques, la libération sexuelle, mais n'allons pas trop vite, il faut détailler, hein, parce que, à mon avis, la libération sexuelle n'a pas vraiment encore eu lieu, hein, mais bon, ça a commencé, en tout cas, diffusion de la contraception, c'est les plus faciles d'avoir de la contraception, ça avait existé déjà dans les années 40, si vous alliez chez le coiffeur, les hommes. Le coiffeur vous dirait est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour ce week-end? C'était la façon de vendre des préservatifs sans dire le mot, hein. Donc quand même, si vous voyez un peu l'ambiance, n'osez pas dire le mot. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais dans les années 70, quand j'étais petit, des blagues idiotes sur les préservatifs, c'était tous les jours. C'était une question qui était tabou. Même dire le mot, c'était tout le monde éclaté de rire, quoi. Donc c'est une ambiance particulière, c'est peut-être encore le cas, j'en sais rien. Le droit à l'IVG en Angleterre en 69, et donc avant 69, une longue campagne de plus en plus de publicité autour des centaines de morts chaque année d'avortements clandestins, hein, parce que c'est dangereux, hein, comme habitude. D'un côté, c'est une génération qui ne connaît pas le sida. Et alors, bon, ça peut encourager une certaine libération sexuelle. De notre côté, c'est quand même beaucoup plus rigide qu'aujourd'hui. Les gens, ils n'en parlaient pas. Hein. C'était quand même encore... Les tabous étaient encore très, très forts. Hein. Je pense qu'il ne faut pas exagérer. Du point de vue de la musique, c'est le moment de la montée des grands festivals. En Angleterre, d'abord, la Isle of Wight... Donc les grands festivals de rock, musique, dont le plus connu, c'est pas The Isle of Wight, c'est dommage, parce que c'est le premier, c'est Woodstock, bien sûr. Et bon, je pense que Si vous n'avez pas vu les 4 heures de DVD sur Woodstock, c'est incontournable, c'est incontournable. En Angleterre aussi, de 60 à 62, grand mouvement contre les armes nucléaires. Manifestation de 100 000 personnes, de 150 000 personnes en 62. Toutes des choses qui sont assez rares en Angleterre, hein, des grandes manifestations comme ça. Alors, vraiment une grande manifestation des occupations de bases militaires par des pacifistes. Et tout ça sur air de musique folk. Vous voyez, il y avait un lien entre la musique folk, le revival de musique folk, dont je vous ai parlé, et le mouvement contre les armes nucléaires. Souvent, on dit mouvement pacifiste, mais ce n'est pas exactement le bon mot, parce que c'était contre les armes nucléaires. Ce n'était pas contre toutes les formes de guerre, c'était contre les armes nucléaires, considérant que, contrairement aux fusils, on ne peut pas tuer seulement des soldats, on tue des villes entières. Élection des travaillistes en 64, donc élection de la gauche en 64, sous Harold Wilson. Et c'est le gouvernement qui va décriminaliser l'homosexualité et aussi légaliser l'IVG. Mais c'est intéressant, ni une question ni l'autre était évoquée dans le manifeste. C'est-à-dire qu'ils avaient en tête de le faire, mais ils n'osaient pas le mettre dans le manifeste parce que ça aurait pu faire scandale. Alors, ce sont des choses intéressantes. Aussi, abolition de la peine de mort. La légalisation de l'homosexualité suit une période où il y avait une répression féroce contre les homosexuels en Angleterre. Et si vous pouviez être emprisonné parce qu'on a trouvé une lettre d'amour de vous, d'un homme à un autre homme. Et alors, les homosexuels à Londres, une fois que la police commençait cette campagne, devaient brûler toutes les lettres, tout le carnet d'adresses, mémoriser les adresses et les numéros de téléphone et ne pas les marquer. Et puis, il y avait énormément, ça existe encore aujourd'hui, mais à l'époque, des suicides de jeunes qui ne voulaient pas dire à leurs parents qu'ils étaient homo, c'était très courant. Donc, et puis, moins important, mais quand même important, et je me rappelle, en 66, la victoire de l'Angleterre à la Coupe du Monde. Dans le théâtre, il y a un nouveau théâtre radical, samedi soir et dimanche matin. C'est un roman, un des premiers romans écrits par un homme de la classe ouvrière. Il y avait la nouvelle poésie de Roger McGough et Adrian Henry. Et dans la musique populaire, bien sûr, le plus marquant, ce sont les Beatles. Mais qu'est-ce qu'ils ont de marquant et qu'est-ce qu'ils ont de nouveau? C'est ça ce qui est intéressant. Pas seulement du niveau... bien sûr, on peut dire, ouais, c'était mieux que les autres. Oui, mais ce n'est pas de l'histoire, ça. C'est une opinion. Tout d'abord, qu'est-ce que les Beatles ont de différent? Hein? Ça vient des petits clubs. Ils ont commencé aux Cavernes et puis à Hambourg. Ils étaient dans un petit club. Donc, ça ne vient pas passer par les grandes salles de danse, etc., par la radio et tout ça, ça vient des petits gens. Ce sont des petits gens, d'ailleurs. Ce n'est pas franchement des enfants d'ouvriers, mais c'est des petits gens qui bossent dans un petit club, première chose. Deuxième moment, il y a un professionnalisme extrême. Ils ont passé 2 ans en Allemagne, 7 heures sur scène tous les jours, 6 jours par semaine. Alors, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend à faire de la musique. Hein. 7 heures sur scène tous les jours, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui avaient une détermination à toute épreuve, comme souvent on trouve. Et ça va donner donc une forme de musique donc, un peu différente. Ils vont commencer avec des choses... En fait, je crois que... Ah oui, voilà.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. My lover brings, she brings to me, and I love her.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils ont avant les paroles, ça vole pas haut, hein? elle me donne tout et tendrement. Les baisers qu'apporte mon amour, elle les apporte pour moi et je l'aime. Ouais, je sais pas, mais comme pour draguer les filles, je recommande pas forcément ces paroles passées. Je sais pas si ça marcherait. Et pourtant, bien sûr, je fais un peu de l'ironie, mais c'est évidemment tout d'abord qu'il porte et ça marche. Et puis aussi, ce qui est assez marquant, c'est que ça marche encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ça ne fait pas excessivement ringard pour une partie de la jeunesse d'aujourd'hui. Des paroles très simples, très directes. Première personne, moi, je. Yeah. She loves you, yeah. I wanna hold your hand. Etc. Peu de métaphores dans le premier truc, pas excessivement poétique, hein, mais très simple. Musicalement, très novateur. Les Beatles, ils ont vraiment une approche d'artiste. Chaque fois qu'ils sortent un album, ils disent, qu'est-ce qu'on peut mettre comme nouvel instrument qu'on n'a pas utilisé, comme nouveau son qu'on n'a pas utilisé. Et alors, très rapidement, mais dans 2 ans, on est dans les musiques, les instruments indiens. Aujourd'hui, tout le monde met un peu d'instruments indiens, mais c'est les nouveaux. Alors, une grande créativité par rapport tout ça. Dernière chose, c'est pas un chef et un groupe. Les groupes jusque-là, c'était un chef et un groupe. Donc, c'était les autres qu'on va entendre d'ailleurs dans un instant. Jerry and the Pacemakers, Freddie and the Dreamers. Donc, un chanteur et son groupe. Et là, c'était beaucoup plus à part égale. Et il n'y a pas un chanteur et un chef et puis quelques instrumentalistes autour. Donc, ça, c'est important. Ils ont eu énormément de mal à pouvoir enregistrer des groupes. Ils ont des auditions en 62. Ils hésitent un moment et puis ils choisissent un autre groupe. Philips ne s'intéresse pas. Pye ne s'intéresse pas. CBS ne s'intéresse pas. EMI ne s'intéresse pas, toutes les grandes ne s'intéressent pas à eux, ça ne le dit pas, parce que bien sûr, ils sont en train de dire qu'est-ce qu'il va vendre. Ça ne ressemble pas, donc ça ne va pas vendre. Mais avec un peu d'aide de leur manager, ils réussissent enfin à intéresser donc, EMI ou EMI, comme on dit. Et c'est essentiellement parce que leur manager a beaucoup de copains dans les magasins de disques dans le Nord. Alors il dit à EMI, mais moi j'ai plein de magasins qui le vendraient. Hein. Donc bien sûr, ce ne sont pas des débats sur le côté artistique, c'est sur le côté est-ce que ça va vendre, et ils sortent au début de 63, et puis c'est le succès, un succès historique. On parle tout de suite du Beatlemania, hein, et ils ont les numéros 1, From Me to You, She Loves You, Can't Buy Me Love. Ils réussissent à percer aux États-Unis. Encore une fois, d'une façon un peu inhabituelle. Tout d'abord, c'est une petite compagnie de disques qui fait de la musique noire, qui veut bien les signer. Les autres ne s'intéressent pas. Et c'est un an après que Capitol décide que voilà, il y a de l'argent à faire là-dedans. Il est vrai que le manager est très doué pour le marketing. Et tout ça, et bon, c'est une histoire très connue qui le oblige à s'habiller différemment. Et réduire le côté revolution dans la première période et augmenter le côté genre idéal, quoi. C'est un peu les Olivier Besancenot de la musique populaire de l'époque, très clean comme image. Mais ils vont aussi se transformer. Bon, ils sont ensemble donc, pendant 8 ans, et ils vont se transformer artistiquement quand ils n'ont plus besoin vraiment de faire de l'argent. Et ça va être plus politique, plus aventurier du point de vue musical. Et ils vont introduire toute une série d'éléments pris dans la musique classique. Alors, vers la fin, ça va être plus comme ça, plus politique aussi. Je vais le mettre au milieu. It's the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? We'll be right back. Qu'est-ce qu'il dit celui, j'ai trouvé un article là-dessus. Avec les Beatles, les valeurs, les manières de la jeune classe ouvrière s'invitaient dans l'univers du rock et de la variété. Et ils y entraient tels qu'ils étaient, sans déguisement de star, sans laisser leur identité au vestiaire. Ils se conduisaient parfois comme des prolétaires dans un château, c'est-à-dire comme les chiens dans un dieu de qui, pratiquaient un humour corrosif qui tournait beaucoup de choses en dérision, et donner de l'attrait à leurs interviews, à leurs films, et une dimension subversive à leur image. Ainsi, quand John Lennon disait en 63, au cours d'un gala réunissant toute la haute société, que ceux qui sont au place bon marché applaudissent, les autres n'auront qu'à secouer leur quincaillerie. Voilà. OK, donc c'est vrai que ce côté, une image ouvrière quelque part, ou en tout cas une image de genre ordinaire, c'est pas tout à fait nouveau. Dans le musical, il avait ça. Il avait disparu dans la big band, parce que le big band, c'est au contraire, le chanteur doit être habillé avec le nœud papillon. Il peut être, venir de n'importe quel milieu social, c'est pas le problème, mais il doit être habillé, costard, nœud papillon et tout ça. C'est une faux bourgeois, quelque part. Là, on a ce côté-là. Et l'autre chose, c'est que si au début, les paroles, c'est elle t'aime, oui, 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 elle t'aime, oui, oui, oui. Bon, d'accord. Très rapidement, là, les dernières, c'est plutôt moderne, contemporain, dans le sens que c'est une poésie un peu inspirée de la méthode surréaliste, où il ne faut pas dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le problème. C'est une série d'images qui vont ensemble, qui communiquent une ambiance, qui communiquent des sentiments, mais ce n'est pas intéressant de dire, oui, non, mais... qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le problème. Quoi. Et ça, c'est resté le cas depuis. Hein. C'est-à-dire que toute une partie de la musique populaire, particulièrement le rock, va aimer donc ces séries d'images ou de petits bouts d'histoire mis ensemble qui ne racontent pas une histoire en tant que telle, mais qui communiquent une ambiance. Ça, quelque part, c'est peut-être Bob Dylan qui est le premier qui met en avant l'idée qu'on peut faire de la poésie et le chanter comme musique populaire, comme rock et folk. Et deuxièmement, que la musique populaire peut traiter des sujets très importants, du sujet politique ou philosophique ou autre. Dylan, il va très loin dans ce sens-là et ça va devenir accepté peu à peu. Encore une fois, ça existait dans le musical. Dans le musical, il y avait des chansons sur le chômage, la pauvreté, etc., dans un genre particulier. Mais depuis les années 20, il y a toute cette période où, en fait, sauf le blues aux États-Unis, vous chantez quasiment obligatoirement de l'amour, et de l'amour parfait, d'ailleurs. Et avec le rock, et puis surtout, juste après le rock, le post-rock, quelque part, il y a cette idée qu'on peut chanter de tout. Et ça va continuer à être le cas. Et beaucoup des nouveaux groupes de rock aujourd'hui, je dis rock dans le sens le plus large, souvent, les meilleurs, c'est ceux qui chantent des thèmes dont on n'avait pas chanté avant. Et donc, ils inventent là-dedans. Et on ne peut plus parler, pour une partie de la production, de musique légère. Bien sûr, il y a toujours énormément de musique légère. Mais il y a aussi une production de musique populaire qui ne se limite pas à dire des choses légères, on va faire la fête et tout ça. Je ne sais pas que j'ai quelque chose contre des chansons de faire la fête, au contraire. Alors, bien sûr, il y a la machine économique derrière. Une fois que les Beatles percent, toutes les compagnies de disques débarquent à Liverpool et vont écouter tous les groupes dans tous les coffee bars pour essayer de trouver d'autres stars. Et ils en trouvent pas mal d'autres. C'est le moment du British Invasion, ou comme on dit en français, l'invasion britannique, notamment aux États-Unis, où il y a une vingtaine, une trentaine de groupes qui vont, d'ailleurs, en 63 et 64, là je reviens donc au début des Beatles, en 63 et 64, environ 245 tours furent enregistrés par des groupes de Liverpool. Hein? Donc une centaine. En général, les groupes ne composent pas leurs chansons, c'est pas comme les Beatles. Et ils ont chacun une tentative de faire ce qu'ils peuvent. Souvent, ils viennent d'origine ouvrière. Hein. Celui-ci, Herman's Hermits. Je ne sais pas si j'en ai des Herman's Hermits. Non, pas du tout. Je vais vous en parler quand même. Y a Herman's Hermits qui est fait par... C'est un livre de lait. C'est un livre de lait qui a fait le... Qui fait le groupe Herman's Hermits. Justement, ils chantent sur le lait, entre autres choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette chanson, vous connaissez parce qu'il y a eu d'autres reprises après. Mais ici, c'est The Dave Clark Five, donc de Liverpool. Je crois. C'est une version live, mais il est en mauvais état, hein, les gars. Dans le même genre, Freddy and the Dreamers. Alors, Freddy and the Dreamers, ce qui est notable de Freddy and the Dreamers, c'est qu'ils se prenaient vraiment pas au sérieux. Et malheureusement, je n'ai pas le vidéo, mais je le mettrai en lien sur le blog. Et c'est hallucinant ce qu'il fait sur scène. On est plié en quatre avec cette chanson.
Some supper, let the evening pass by, by digging records. such a groovy high five. I say, yeah, yeah. That's what I say, yeah, yeah. My baby loves me, she gets me feeling so fine. The way she loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses, she gives it all that she's got. When she asks me if everything is okay, I got my answer. The only thing I can say, I say, yeah, yeah.
Ils ont tendance à chanter un accent américain, même s'ils viennent de Liverpool. Hein. C'est pour être un peu dans le vent. Et comme la plupart des périodes, il y a énormément, des dizaines de groupes. Et il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Et notamment, donc, qui commence en 64, The Kinks. Et alors, notez l'importance des noms. Hein. Freddie and the Dreamers, Freddie et les rêveurs. The Kinks. C'est un peu les pervers. Hein. C'est un peu les pervers. Hein. Alors, donc, même dans le titre de leur groupe, ils affichent une certaine rébellion contre les mœurs. Hein. Ils revendiquent le fait d'être pervers. Hein. Et ils vont avoir une influence extrêmement importante. Parce que, notamment, en fait, ça va être quasiment la naissance du hard rock, comme on dit en français, avec celui-ci. Alors, vous l'entendez déjà cette introduction, et c'est tout le hard rock qui est là derrière quelque part, sauf qu'il fallait être le premier. Ça, c'est autre chose. N'importe qui peut faire ça aujourd'hui, mais il fallait être le premier. Et c'est une chanson qui s'appelle All Day and All of the Night, toute la journée et toute la nuit, pour ceux qui ne parlent pas anglais.
To be with you in the daytime, girl, I want to be with you all of the time.
Si vous ne connaissiez pas la chanson et vous l'entendez comme ça, à mon avis, vous ne vous dites pas, hein, oui, le début des années 60, ça a quand même l'air beaucoup plus récent. Et alors, bien sûr, aujourd'hui, si vous voulez faire ce son-là, il y a un bouton sur votre ampli pour le faire. Hein. À l'époque, bien sûr, comme il a fait, en coupant avec une scie une partie de l'ampli. Hein. En fait, une partie des enceintes, voilà. Ils coupaient. Ils disaient, oh, oui, je me demande qu'est-ce que ça va être donné comme son si j'enlève cette partie-là. Hein? Donc, c'est vraiment c'est une éthique d'expérimentation. Et bien sûr, c'est aussi. Donc, c'est comme ça qu'il a ce son. On dit un son sale, quelque part. Hein? C'est un peu de distorsion. Pas de la scène, mais un peu de distorsion. C'est important. En 64, c'est très avant-garde. Et ça a un sens aussi. Je pense que toutes les sons un peu tordus comme ça, un peu pas clairs comme ça, et ensuite, il va y avoir l'utilisation carrément de la Larsen. C'est le Larsen ou la Larsen? OK, du Larsen, comme Jimi Hendrix et tout ça. Ça a une importance de communication parce que c'est quand même une manière, moi je crois, d'exprimer une difficulté de communication. Quoi. C'est une idée que, voilà, il n'y a pas que le beau. On ne veut pas exprimer que le beau. On va exprimer ce qui est difficile, ce qui est tordu, ce qui est complexe. Et ça, quelque part, en fait, ils suivent simplement le modernisme en général. Vous savez que les peintres au 19e siècle, ils peignaient le plus souvent ce qu'ils voyaient. Voilà, c'est joli, je vais le peindre. Et puis au 20e siècle, ça passe par toutes les distorsions, le cubisme, le surréalisme, l'abstrait et tout ça. Et on fait plein d'autres choses au lieu de le présenter. Et quelque part, avec la musique, on fait la même chose. On est plus prêt simplement à faire des sons, des jolis sons, parce qu'il y en a plein de jolis sons, ça ne manque pas. Et alors, on va faire autre chose, dont notamment ça. Et c'est vrai que quelque part, The Kinks, pas seulement c'est le... un peu la maquette pour le hard rock, mais aussi un petit peu la maquette pour le punk aussi. Je ne vais pas exagérer, il y a eu beaucoup de choses qui ont été inventées après, mais en 64, c'est d'un grand avant-garde. Ils avaient un certain nombre de problèmes. Ils ont fait des... il y avait des combats, ils se sont battus contre les gens dans le cancer aux États-Unis. Ils ont été interdits de tourner aux États-Unis pendant 4 ans. Et ils vont continuer, ils vont changer pas mal. Et ils vont produire des chansons plus mélancoliques comme Waterloo Sunset. Et aussi toute une série de chansons un peu de critique sociale sur se moquer des gens qui suivent de trop près la mode, par exemple. Donc on passe au commentaire social proprement dit, dedicated follower of fashion, hein, où c'est pas une critique très directe, c'est une ironie assez difficile à démêler. 64, mais bien sûr, on poursuit avec The Who. Et ici, quelque part, on voit bien sûr, on a vu avec les Beatles et les autres l'invasion britannique, mais même par la suite, pour un petit pays, c'est une période où les Anglais assurent, je veux dire, produire The Kinks et The Who 2 années de suite, c'est quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils font, The Who? Et pourquoi? Déjà, ils sortent un hymne générationnel. Il n'y en a pas beaucoup d'hymnes générationnels. Hein. Il y en a un certain nombre, punk ou autre, ou rap ou autre. Mais je ne sais pas, c'est peut-être le premier. Oh non, je pense que quand même Rock Around the Clock, ça peut compter. Mais c'est plus déclaré, alors c'est My Generation. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, déjà, la musique, ça ressemble quelque part. C'est une musique qui est garantie, qui est sûre d'énerver un peu les parents. Hein? Mais on ne peut pas danser. Et puis, la parole, ça se répète tout le temps. Hein? Il y a de quoi énerver les parents, ce qui est gauche, hein? C'est la première chose. Après, le texte, c'est extraordinaire. Hein? C'est les gens, ils nous méprisent simplement parce qu'on bouge beaucoup. Et puis, la grande phrase qui est classique là-dedans, « J'espère mourir avant de vieillir. » Alors, ça, c'est un hymne générationnel. Hein? « J'espère mourir avant de vieillir. » En fait, celui qui le chante n'est pas mort. Il a reçu une décoration de la reine il y a 2 ans. Mais bon, c'est ça la vieillesse. Mais voilà donc un défi à la génération précédente, parce que c'est pas seulement vous ne comprenez pas, vous ne pourrez jamais nous comprendre. C'est pas une tentative de communication, hein. c'est don't try to dig what we all say. N'essayez même pas de comprendre ce qu'on est en train de dire. C'est allez vous faire avoir, hein. C'est plutôt ça, hein. C'est poliment dit. Et puis bien sûr, j'espère mourir avant de vieillir. C'est génial comme slogan. C'est vrai que le jour, si vous êtes très énervé, vous dites ça à vos parents, ils ne reconnaissent pas la citation. C'est lourd, hein. Ils vont en prendre mal, je crois. Hein, c'est vraiment quand. Votre génération n'a rien. C'est ça, c'est le cri de la jeunesse qui dit votre génération n'a rien. Et on est sorti tout juste de la génération qui disait aux jeunes, mais nous sommes battus dans la guerre pour vous. Mais quand même, il y a donc une forte revendication d'indépendance, etc. Bien sûr, c'est du mélodrame. C'est-à-dire que la musique populaire, depuis tout le temps, comme le western, comme le polar, c'est le lieu du mélodrame. C'est comme la chanson d'amour. On est dans, si vous voulez, dans l'exagération artistique. C'est tout à fait normal. Je veux dire, on ne va pas chanter une chanson d'amour qui dit « Vous êtes vachement sympa, vous êtes la septième plus sympa fille dans votre classe, et puis j'en ai connu beaucoup plus moche que vous. » Ça ne fait pas une chanson. Hein? On dit « Vous êtes la plus belle, la plus géniale, etc. » Et c'est similaire avec des sentiments de colère. La musique est faite pour exprimer un sentiment extrême. Alors, il faut pas le prendre trop au pied de la lettre. The Who aussi, en partie pour provoquer, en partie pour explorer de nouvelles thèmes. Et dans la même génération, deux ans plus tard, ils sortent Pictures of Lily. C'est une chanson sur la masturbation. Il y en a d'autres sur les handicapés mentaux. Alors, tu vois, ils osent introduire des thèmes qui étaient un peu tabous. Et enfin, en 69, ils vont sortir Tommy. Et Tommy, c'est un album qui décrivent comme un opéra rock. Oui, c'est avant Mozart, l'opéra rock. Ils décrivent comme un opéra rock. Et ça a un certain succès. C'est pas un grand, grand succès. Mais ça a un certain succès. Malheureusement ou heureusement, il n'a pas vraiment de suite. C'est un opéra rock et puis il n'y a pas d'autres qui ont dit oh « Oui, effectivement, c'est une forme qui marche, on va faire ça. » Mais c'est-à-dire que c'est un album qui raconte une histoire, un peu surréaliste comme histoire, d'un traumatisme d'un enfant et comment il s'en sort. Et c'est un enfant qui est tellement traumatisé qu'il ne voit plus rien, il n'entend plus rien, mais il devient un champion du flipper. OK ? Oui, ce qui est quand même assez fort hein, dans le genre. Et c'est la chanson que vous connaissez, je crois. Hein. Est-ce que vous connaissez la chanson que je vais mettre? Pas tout le monde, c'est bien. Comme ça, je sais quelque chose. Ça s'appelle Pinball Wizard. Je vais le mettre au milieu. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From so hard down the bright. Played them all, but I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That depth on the blanket sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Leaving all the bumpers, always plays clean. Plays by intuition, the digit counts as ball. Vous pouvez trouver le DVD, c'est assez intéressant, c'est une critique de l'Angleterre bien pensante de l'époque. Il y a une partie qui est dans un camp de village de vacances, comme on aimait quand j'étais jeune, et ils se moquent du village de vacances. Voilà. The Who, c'est aussi devenu le groupe phare des mods. Pendant, au début des années, au milieu des années 60, le conflit entre les mods et les rockers, qui a quelque chose d'original et premier, parce que c'est un conflit qui est basé sur le type de musique et le type de vêtements et le type d'identité qu'on choisit. C'est nouveau. c'est nouveau. C'est-à-dire que les rockers avaient tendance à s'habiller le week-end, parce que pendant la semaine, ils allaient au boulot, hein, le week-end, un peu avec, la cravate en ficelle, un peu à l'américaine, hein, avec le teddy boy, les revers très larges de la veste et des bottes. Et les modes très élégants en noir, avec la cravate très étroite. Et les rockers sur les motos, les modes sur les mobilettes. Et il y a eu 2 ou 3 ans de suite à Brighton des grandes batailles, hein, des batailles rangées entre les deux. Alors, ce qui est aussi est nouveau, il y avait eu toujours il y avait toujours eu, bien sûr, des combats entre bandes. Mais c'est des bandes de quartier, mon quartier contre votre quartier, ou catholique contre protestant, quand j'étais jeune, c'était ça. Mais les modes et les rockers, ils se battaient à cause de leur goût en musique et en vêtements. Et ça avait un symbolique aussi, parce que les rockers s'identifient aux États-Unis. Bill Haley, le beat cowboy un peu. Et les modes, c'est très anglais, utilisation du drapeau britannique, par exemple. Et donc, il y a cette partie aussi de défense de la culture anglaise contre les autres. Même si, en fait, par la suite, les modes vont être ceux qui vont travailler beaucoup avec des musiciens noirs en Angleterre. Alors, c'est pas un nationalisme raciste, mais c'est un nationalisme anti-américain, quelque part. Quand on voit là-dedans. Ça, c'est The Who. Et leur album Tommy les a rendus superstars aux États-Unis. Ça a beaucoup plu. Alors, on arrive à la fin des années 60 et on est dans une... On est dans un contexte technologique différent. Le transistor est arrivé. Ça change quand même pas mal de choses. Hein, parce que vous pouvez, dans la voiture, si vous avez une voiture, hein, beaucoup de gens n'ont pas de voiture, sur la plage, un peu partout, avoir la radio là où avant, hein, c'est comme ça, hein, c'est à la maison, c'est pas ailleurs, hein, ou c'est le jukebox. Hein, donc ça veut dire beaucoup plus de musique un peu partout. Mais il y a un problème de diffusion, parce que la BBC a encore le monopole sur la radio en Angleterre, et ils sont très très frileux par rapport à la musique populaire. Quand ils vont sur un moment, ils ont une émission de musique populaire, ils ont un vieux de 60 ans qui dit « Ah oui, on va vous présenter un petit peu du rock and roll, je crois que ça s'appelle. » C'est vraiment l'ambiance comme ça, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous prenez Patrick Poivre d'Arvor pour présenter une émission de rap. Ouais, c'est un peu cette ambiance-là, vous voyez. Alors, ils ne voulaient absolument pas. Et alors, la situation a été changée par l'arrivée des radios pirates. Si vous avez vu le film Good Morning England, ou Good Morning England, ce qui est le même film, qui est sorti en DVD maintenant, c'est l'histoire des radios pirates, le premier Radio Caroline, qui introduisait des nouvelles idées venues un peu d'Europe, Radio Luxembourg et tout ça. C'est musique toute la journée, musique populaire toute la journée. C'est une nouvelle idée, ça n'existe pas. Le disc jockey dit 4 phrases, il met une autre chanson. C'est d'une popularité extrême. Le gouvernement essaie de les fermer, il a beaucoup de mal parce que c'est politiquement délicat. Hein. Je veux dire, il y a quasiment toute la jeunesse qui l'écoute. C'est illégal, mais bon, le gouvernement, ils sont cons, mais ils sont pas si cons que ça, ils ne veulent pas le fermer. Finalement, ils réussissent à les fermer, mais en réalité, ça a déjà transformé la situation. La BBC est complètement réorganisée et il prend l'organisation qu'il a aujourd'hui. Radio 1, 2, 3, 4. Radio 1, le meilleur musique nouvelle. Et même aujourd'hui, vous mettez la une de la BBC et vous n'aurez rien qui a plus que 18 mois, qui est sorti il y a plus de 18 mois. C'est vraiment le dernier. Radio 2, musique populaire plus généralement, Radio 3, musique classique et jazz, et Radio 4, théâtre, information, etc. Il y a aussi maintenant 5 et 6, c'est musique indo-pakistanaise et antillaise et tout ça qui est moins mainstream. Alors, c'est remarquable parce que la BBC était parmi les radios nationales les plus traditionnelles Et après les années 60, il est devenu, par rapport aux radios nationalisées, nationales, sans doute le plus avant-garde d'Europe. Et le reste aujourd'hui, c'est vraiment le tout nouveau que vous avez. Ils font le tour des sites web un peu clandestins et les petits clubs pour faire les émissions, surtout les émissions tard le soir. Voilà, donc ça va être la victoire indirecte des radios pirates, parce qu'en fait, le gouvernement va fermer les radios pirates et puis embaucher toutes les vedettes des radios pirates pour la BBC. Hein, donc c'est bien mené. Et on arrive à 68, c'est le printemps de Prague, révolution à Prague contre écrasée par la Russie, les énormes marches contre la guerre du Vietnam, révolte estudiantine en France, une grève générale de 10 millions de personnes en France, mais aussi même aux États-Unis, pas mal d'éléments similaires. Mais j'ai oublié quelque chose d'important avant d'en venir à 68. Et bien sûr, ce sont les Rolling Stones. Les Rolling Stones. Alors, qu'est-ce qu'ils font les Rolling Stones? Ben, ils sortent un petit peu après les Beatles et leur manager choisit un positionnement sur le marché un peu différent. C'est que puisque les Beatles ont occupé un peu le genre idéal, ils vont être les petits méchants. Et c'est fait assez exprès, hein, je veux dire. L'idée que la fabrication de l'image de groupe, c'est un truc nouveau, c'est pas du tout nouveau. Ça se fait depuis au moins les années 20. Je dis rien contre. Il faut bien vendre des disques. Et puis, donc, les Rolling Stones vont sortir des choses un peu plus hard rock que les Beatles. Et bien sûr, le plus connu va être celui-ci. Ok, c'est une forme de blues. Ça va le prendre un peu de temps pour percer. Il commence en 62 à chanter, mais ça prend un peu de temps pour percer. Cheveux longs, mal coiffés, vêtements disparates et négligés. Ça tranche avec les images propres des musiciens de blues et de jazz, les professionnels de l'époque, je veux dire les musiciens blancs de blues et jazz. C'est un anticonformisme rebelle et asocial, et on dit souvent que c'est un peu l'esprit de la faculté des beaux-arts. Alors il faut expliquer un petit peu la faculté des beaux-arts en Angleterre, qui est déjà, ils sont plus nombreux et moins prestigieux qu'en France, et ça a eu toujours un peu une ambiance de révolte esthétique, et ça va être très important dans le développement de la musique populaire, notamment, par exemple, les Sex Pistols, les plus célèbres des punks, où est-ce qu'ils font le tout premier concert dans la faculté des beaux-arts de Londres. Ce n'est pas un accident, même que ça va devenir une voie partiellement du prolétaire exclu. Ça commence à la fac des beaux-arts, ce qui n'est pas non plus bourré de prolétaires. Il faut dire ce qui est. Même si c'est sans doute un peu moins bourgeois que le beaux-arts en France. Encore The Rolling Stones. Pendant les premières quelques années, The Rolling Stones, ils n'écrivaient pas leurs propres chansons. Ça, c'est par la suite. Au début, ils faisaient des classiques du blues. C'est à partir de Satisfaction qu'ils commencent à composer leur propre morceau. Et ça, c'est un élément que je voulais souligner, parce que, pas par rapport aux Rolling Stones, mais l'idée qui compose les chansons est un élément important dans l'histoire de la musique populaire, parce qu'il y a toute une série de courants de la musique populaire qui trouvent que le chanteur devrait composer ses propres chansons. C'est sûr que dans le punk, ou je pense dans le rap aussi, hein, c'est... Si celui qui le fait n'a pas écrit lui-même, c'est un point en moins, quoi. Ça compte au moins. Ce qui n'est absolument pas le cas, bien sûr, pour le folk music, parce qu'au contraire, il faut que ça soit traditionnel, ou pour le big band, c'est absolument pas important de ne pas être celui qui l'a écrit. Et pour d'autres types de variétés aussi, c'est pas mis en avant. Même parfois, c'est l'inverse. Si vous regardez Star Academy et autres, ils ont, si j'ai bien compris, ils n'ont pas le droit de chanter leur chanson. Ils doivent interpréter ceux des autres. Ce qui est un peu spécial. Dernière des Rolling Stones, et puis j'ai encore quelques-uns que j'avais oubliés. Ok, donc une chanson de blues très simple, adressée à une certaine Angie. L'opposition Beatles et Stones, ça a duré un certain temps, notamment le côté gare méchant. Il y avait des émeutes dès le début de la tournée à Blackpool, Belfast, à Paris. Il y a eu 150 arrestations quand même à la suite de leur premier concert à l'Olympia. Il y a cette image qui attirait les gens qui... Ils voulaient casser les choses aussi, hein, en dehors des casseurs aujourd'hui. Je ne sais pas si on vous pose la question, est-ce que vous préférez les Beatles ou les Rolling Stones? Je sais que pour les Français de mon âge, c'est une question fondamentale. Et j'ai découvert la question en arrivant en France, parce qu'en Angleterre, on ne posait jamais cette question. Ce n'était pas la même chose. C'est une question franco-française, Beatles ou Rolling Stones, hein, il faut choisir. Mais il y a un autre élément d'être en France qui... Et moins le cas aujourd'hui, mais surtout était le cas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et c'est-à-dire qu'il y a 10, 20, 30 ans, tout ce qui arrivait dans le rock and roll, le punk, la musique en général, arrivait en France 3, 4 ans après. Alors, tout est un peu décalé. Et si je veux parler à des gens qui ont vécu au même moment que moi la même musique, il faut que je parle à des gens qui n'ont pas mon âge en France, parce qu'il y a eu un décalage. C'est moins le cas aujourd'hui, parce qu'on réagit plus vite avec l'Internet et tout ça. Je veux finir avec deux ou trois groupes que j'avais pas retrouvés. Donc je remonte en arrière au tout début des années 60 pour quelques autres du rock and roll britannique, si vous voulez. Adam Faith. Seulement si je clique au bon moment, sur le bon truc.
What do you want if you don't want money? What do you want if you don't want gold? Say what you want and I'll give it you darling. Wish you wanted my love, baby. What do you want if you don't want money? What do you want if you don't want those?
what you want, and I'll give it you, darling. Wish you want in my love, baby. Well, I'm offering you this heart. Just walking down the street singing. Snapping her fingers and shuffling her feet singing. She looked good. She looked fine. She looked good. She looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing.
Ok, par la suite, et je vais en parler la semaine prochaine. En fait, aujourd'hui, c'était la quatrième séance. Je vous ai posé une question piège et vous avez tombé dedans. Voilà, la semaine prochaine, donc, on va regarder les années 70 et on va voir comment, tout d'un coup, il y a plein de courants différents qui sortent du rock. Merci, ça suffit pour aujourd'hui. Je vous mettrai quelques vidéos sur le blog maintenant que j'ai Internet qui marche à nouveau.
L'épreuve finale.
Oui.
L'épreuve finale, ça va être à l'écrit ?
Oui.
Et c'est des questions, on va s'y mettre...
C'est genre rédaction. Genre... l'influence de la technologie dans l'histoire de la musique populaire, ou l'influence de la voix, ou un truc. Ce qui est sûr, et la deuxième phrase va toujours être utiliser des exemples de plusieurs périodes différentes. D'accord. Donc la première chose, c'est un thème qui est assez large quand même. Je vais trouver un thème assez large. Donc, genre le commentaire social. Et la deuxième phrase, toujours la même, c'est utiliser des exemples de plusieurs périodes.
D'accord, ok.
Après, en général, les gens, ils s'en sortent. Hein. Dites-moi.
Je veux juste savoir la date du partiel.
Donc, aujourd'hui, c'était la séance 4.
Ouais.
Et c'est la séance 9 qui est le partiel.
D'accord. Ça fait à peu près quand?
Vous n'êtes pas capable de compter de 4 jusqu'à 9?
Non.
Ça, c'est affreux. Bon, tant pis pour vous. Oui, dites-moi.
Vous avez donné des feuilles au tout premier cours.
Oui. J'en ai encore, et c'est très intéressant tout ça. Dites-moi.
On voulait savoir, c'était quel genre d'examen ?
Oui, alors c'est une rédaction, et c'est un thème transversal du genre l'influence de la technologie sur le développement du musique populaire, ou de la voix. Et la deuxième phrase est toujours la même. La deuxième phrase, c'est toujours utiliser des exemples tirés de plusieurs périodes différentes.
D'accord.
C'est-à-dire que celui qui est expert dans le reggae, mais qui connaît rien d'autre, il n'a aucune chance. C'est
d'accord.
Pas le but, c'est de l'histoire.
En fait, c'est surtout.
C'est de l'histoire. Quoi. Si vous parlez que des Beatles, c'est sûr que c'est. Même si c'est parfait, c'est raté. Hein, parce que c'est. Après, c'est pas En général, les gens s'en sortent. Hein. Ouais. S'ils ont regardé un peu ça. Hein. C'est... Oui. Le but, ce n'est pas de vous piéger, mais il faut qu'il y ait l'idée que, voilà, que vous avez vu un peu comment ça marche, l'histoire de tout ça. Quoi.
Bah, voilà. On
va faire de la saison 10. Ah bah, j'espère. Et une vision. Alors, les années 70, c'est punk, glam, disco et metal. La prochaine fois, oui. Dès que je l'ai préparé, dites-moi.
En fait, aujourd'hui, c'était ma première séance. Ah. J'ai pas...
Ah, ça, c'est vrai. Mais oui, mais pourquoi, surtout
j'ai fait l'inscription la semaine dernière.
Oh là là. Ok, alors, est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre dans le cours?
Non.
Ok, non, bon, il faut essayer de trouver quelqu'un, parce que si vous ne trouvez pas moyen de savoir ce que j'ai dit avant, vous n'avez aucune chance, hein. Aucune chose. Mais par contre, quelques éléments vont être sur le site web.
D'accord.
Alors, si vous y allez de temps à autre, toutes les semaines, vous allez voir, je vais mettre des choses là-dessus.
D'accord. Et en même temps, récupérer ce qui a été fait.
Ce que vous pouvez.